genèveactive.ch.
Alain Perroux, directeur de l'Opéra de Poche, et qui signe cette mise en scène, et également donc la traduction, puisqu'il s'agit véritablement d'une création mondiale, dans le sens où c'est une première française de ce Sweeney Todd de Sondheim. Et puis l'assistant metteur en scène, donc Lorenzo Malaguerra. Quels sont un petit peu les éléments qui vous ont attiré dans cet opéra de Stéphane Sondheim? Pourquoi ce choix et pas d'autres, puisque son répertoire est assez étendu?
En fait, ce sont des questions assez pratiques. J'avais envie de faire entendre du Sondheim à Genève et m'occupant d'une structure indépendante, l'Opéra de Poche, justement, eh bien, je me disais, tiens, pourquoi pas monter une de ses œuvres? Alors après, on regarde celles qui sont les plus réussies. Il y en a plusieurs. Il y a Little Night Music, à mon sens, Company, que j'adore, ou Sunday in the Park with George. Et puis Sweeney Todd, évidemment, qui, pour beaucoup, est le grand chef-d'œuvre de Sondheim. Et en fait, ce qui m'a décidé pour Sweeney Todd, c'est qu'on pouvait le faire avec des effectifs de chambre, ce qui n'est pas le cas de Sunday, par exemple, ou d'autres choses. Et puis, par ailleurs, il fallait aussi une œuvre qui puisse être traduite en français, puisque l'idée, c'était de faire connaître Sondheim un peu parmi les francophones, alors qu'il est si méconnu en pays francophone. Donc, entre ces différentes œuvres que j'ai citées, Sweeney Todd est finalement celle qui était le plus aisément traduisible, même si parfois c'était assez compliqué. Et voilà, c'est ce qui m'a décidé.
Alors, Lorenzo Malaguerra, il y a la présence d'un chœur, en fait, qui sert de prologue et d'épilogue, qui crée une certaine distanciation brechtienne dans cette pièce. Comment l'avez-vous traité, en fait? Parce qu'il y a à la fois un aspect, disons, de narration et puis en même temps d'actant. Donc, comment est-ce qu'on joue avec ça?
Oui, effectivement, le chœur se distingue des autres scènes, disons, de la pièce, des scènes d'action, par son côté plus... je crois qu'on l'a traité de façon plus formelle, quoi. C'est-à-dire, effectivement, comment trouver un ensemble, comment est-ce que ça se négocie dans l'espace. Et voilà, donc effectivement, on raconte l'histoire, c'est un chœur qui fait un contrepoint par rapport à l'action, comme dans une tragédie grecque, ou effectivement comme un chœur brechtien, et qui a une essence plus formelle par rapport aux autres scènes qui sont alors beaucoup plus, je crois, beaucoup plus organiques, enfin en tout cas un travail dans ce sens-là.
Alors justement, ce travail sur cette pièce, c'est une pièce qui sans doute, comme vous le disiez ailleurs, Alain Perroux, réactive des archétypes, à la fois de l'opérette avec une certaine noirceur, du mélodrame, du drame, de la tragédie. Il y a même des éléments presque de mélodrame comme dans Le Barbier de Séville. Qu'est-ce qui vous a plu justement dans cette œuvre qui est assez patchwork en fait?
C'est précisément le patchwork. Je trouve que c'est une œuvre extrêmement complète. Et qui du coup, je crois, touche le public parce qu'à la fois, elle fait appel à des codes, des schémas bien connus, et ce seront ceux que vous avez cités, et en même temps, elle raconte une histoire assez incroyable. On se dit non, c'est pas possible, ils vont pas faire ça, et oui, ils le font. Il y a une manière assez radicale comme ça d'aller au bout des choses avec cette histoire de barbier sanguinaire qui parce qu'il a pas pu assouvir sa vengeance, devient serial killer, il égorge ses clients et de sa voisine un peu amoureuse de lui, enfin même très amoureuse de lui, et qui récupère les corps pour en faire des tartes à la viande. En dehors de cet aspect grand guignol, il y a donc tout un sous-texte de critique sociale et politique. Et puis, il y a des éléments de romance, il y a des éléments très comiques. Voilà, c'est une œuvre très complète. Et ce patchwork dramaturgique, il se reflète aussi dans la musique. C'est une musique très, très variée et très diversifiée. On trouve de la romance, des tubes que tout le monde chantonne en sortant du théâtre. On trouve une musique beaucoup plus sombre, parfois même expressionniste. Et puis aussi beaucoup d'éléments motoriques qui mettent en avant la dimension justement de... ce contexte de Londres au moment de la révolution industrielle, une Londres miséreuse avec ses laissés pour compte, et puis cette véritable machine à tuer qui est Todd et qui est presque la métaphore justement du système capitaliste qui broie les individus.
Il y a quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de comédies musicales comme dans La Mélodie du Bonheur ou des comédies musicales de Jacques Demy, c'est un petit peu ces sons d'objets relais, et notamment ici donc un sifflement, et puis je crois aussi dans les sifflants de Sweeney, il y a tout un système d'assonance, d'allitération, de contrepoint que Sondheim a voulu créer.
Absolument, vous touchez un point tout à fait exemplaire de la sophistication des partitions de Sondheim. Il y a un travail sur la stridence dans cette œuvre. On entend un sifflet qui est censé être un sifflet d'usine, comme on en avait au XIXe siècle à Londres pour signaler le début ou la fin du travail, et ce sifflet résonne chaque fois client est égorgé. Donc c'est l'équivalent sonore de la lame qui tranche la gorge. Et évidemment, il est en relation avec les sifflants de Sweeney, le S, effectivement, mais aussi le I. Le Sweeney qui est chanté dans le suraigu de la soprano, dans les ensembles, dans cette ballade brechtienne dont vous parliez. Donc effectivement, ça montre justement la grande richesse de la pensée musico-théâtrale de Sondheim. Et c'est ce qui fait un des grands intérêts de ses œuvres.
Alors, Lorenzo Melaguirra, je crois que Alain Perroux avait au départ peut-être même pas envisagé ou renoncé le fait de faire une version surtitrée, sous-titrée de cette pièce, parce qu'effectivement, les tableaux et les textes s'enchaînent de manière extrêmement dynamique, et contrairement à d'autres comédies musicales comme Comédie de Bob Fosse, c'est pas uniquement 20 minutes dans la pièce, mais c'est quasiment tout est parti chanté. Enfin, il y a quelques parties dialoguées, même si dans Comédie de Bob Fosse, ben, effectivement, toutes les parties chantées interviennent à des moments vraiment axiomatiques et tournants de l'œuvre. Ici, c'est pas le cas, donc ça implique des changements de décor extrêmement rapides. Vous avez fait le choix d'une fluidité, et puis même de transformer à un moment donné le chœur. On est près d'une scène de la fin, donc on est un peu dans cette GN, hein, dans ce séjour des morts, dans cette cave, et puis ensuite il se relève, enfin avant c'est les personnes de l'asile. Vous n'avez pas souhaité justement, visiblement, dans ces mouvements, placer de décor, c'est-à-dire que vous êtes resté avec le principe de la table, qui est un principe très, pas uniquement brechtien, hein, mais j'entends, on peut parler de Cantor, on peut parler même du théâtre du Radeau. Quel défi justement ça présentait par rapport à ça, d'avoir uniquement quelques symboles pour signifier un...
Je crois que c'est l'œuvre elle-même qui détermine quelque part un décor de ce type, parce que c'est une œuvre au fond, bon, on pourrait dire brechtien, on pourrait dire aussi shakespearien, parce que c'est vrai qu'on passe d'un espace privé à un espace public très rapidement, effectivement, donc il faut des éléments de décor qui sont susceptibles de signifier très rapidement un espace. Ça, je crois que c'était un très beau travail d'ailleurs qui a été fait par Alain, par la scénographe Claire Pavérelli, qui, je trouve, qui a fait un très beau travail de scénographie. Et effectivement, voilà, qui nous permet de passer très rapidement d'une scène à l'autre, et avec des espaces signifiants, très, très, très efficaces, je crois.
J'aimerais préciser que Lorenzo Melaguirra a joué un rôle extrêmement important, et il n'était pas assistant en metteur en scène, il était vraiment co-metteur en scène. On a dû travailler effectivement de manière à la fois très physique et très théâtrale avec une équipe qui est absolument formidable de chanteurs qui pour la plupart viennent du monde de l'opéra et qui se confrontaient pour la première fois à cette dramaturgie très serrée, très rapide, comme on l'a dit tout à l'heure, où on alterne entre le chanter et le parler très vite, il y a des scènes parlées, etc., qui n'étaient pas toujours faciles. Et il est vrai que dans ce processus, on a parlé de Claire Pavérelli aussi, qui a su créer des espaces propices à ce jeu, mais pour le jeu précisément, Lorenzo a été extrêmement important.
Alors si on prend une scène essentielle qui montre aussi peut-être ce qui met à distance cette ironie noire, cinglante, c'est la scène de ces tartes à la viande qui réunit donc Miss Lovett et puis Sweeney Todd. Est-ce que vous souhaitez une tarte à la viande, à l'évêque, etc. Là, on se rend compte qu'il y a une sorte de tuilage, d'enchevêtrement, je ne saurais comment le nommer, de tressage, où un texte, une partition entre dans l'autre, vient résonner. Comment est-ce qu'on arrive à aborder ce type de choses? Comment vous l'avez vu, cette écriture, Alain Perroux, peut-être? Avec ces incises où chaque fois, il y a un chant qui se continue derrière l'autre,
en même temps. Mais écoutez, à la fois, c'est assez... Comment dire, c'est assez facile et en même temps c'est très très difficile. C'est-à-dire que l'écriture de Sondheim est virtuose, et notamment dans un passage comme celui-ci. Il y a un autre passage, c'est la première apparition de Mrs. Lovett qui discute avec Todd. Elle est très bavarde, alors ça va très vite, elle dit plein de choses, elle parle pour ne rien dire, elle saute d'un sujet à l'autre, du coq à l'âne, tout en pétrissant de la pâte. Et il se trouve que par exemple chez Sondheim, déjà, c'est lui qui écrit les textes aussi. Il n'est pas seulement compositeur, il est aussi parolier, lyricist. Et il a non seulement donc inventé cette espèce de verbiage incessant qui est parfaitement rythmé, qu'il faut être en rythme et dans des rythmes parfois irréguliers, donc c'est très difficile pour la chanteuse et pour l'orchestre. Et en plus de ça, il a spécifié à quel moment elle doit taper sur sa patte, elle est accompagnée par des instruments, donc tout ça, c'est une mécanique véritablement. Alors, vous parliez de tuilage, effectivement, les tuilages, au fond, ce sont ceux de Sondheim. Après, pour moi, la difficulté, ça a été d'essayer d'être à la hauteur, je crois que c'était de toute façon peine perdue, mais d'arriver à peu près à donner une image pas trop bancale, de justement de cette faconde de Sondheim, de son, sa science du mot, du jeu de mots, parce qu'il y a des jeux de mots à chaque mesure, et des jeux de mots en rafale, en cascade dans cette scène où ils s'échangent des tartes en rigolant et en disant ça c'est du curé, ça c'est du notaire, etc. Alors là, je dois vous avouer que pour un traducteur, c'est l'enfer sur Terre. Il y a des jeux de mots totalement intraduisibles, donc on doit faire des détours insensés pour essayer de retrouver des choses à peu près drôles en français. Ça a été effectivement une des grosses difficultés du travail d'adaptation.
C'est un récit qui est assez particulier quand même, parce qu'on parle d'un tueur en série, on parle également d'une femme qui réagit de manière assez peut-être amorale, mais en tout cas très simple par rapport à ce commerce. Vous, c'était important de montrer des personnages qui étaient à la fois peut-être qui avaient une certaine monstruosité, mais qui restaient tout de même touchants et humains, parce que c'est pas dans toutes les versions qu'on retrouve ça nécessairement.
Ah, moi, c'est ce que je voulais, mais parce que j'ai l'impression que l'œuvre, le livret de Hugh Wheeler, la musique de Sondheim et ses lyrics nous incitent à le faire. Franchement, je crois que dans l'œuvre, Mrs. Lovett est une personne très sympathique. Alors après, bon, finalement, notre travail à Lorenzo et à moi, c'était de voir comment est-ce qu'on allait faire passer ça avec nos chanteurs, avec notre parti pris, avec nos sensibilités, les sensibilités de chacun, etc. Mais à la base, il y a quand même un matériel qui est justement d'une richesse, déjà. Et si on le lit bien, on trouve déjà tout cela. Et il est vrai que Mrs. Lovett, elle est très sympathique, parce qu'elle a ce côté bonne dame anglaise, qui a bon cœur, qui recueille un orphelin, puis qui en même temps est totalement monstrueuse. Mais je dis toujours qu'elle est amorale dans le sens où voilà, elle n'est pas monstrueuse, c'est pas un yago féminin, tout au contraire, elle n'a pas de notion du bien et du mal, elle a juste la notion de ce qui est pratique et ce qui ne l'est pas. Et puis tout ce qui pourrait l'aider à vivre son fantasme d'une vie bien bourgeoise au bord de la mer, enfin bourgeoiso-romantique. Voilà. Et Sweeney Todd, c'était un peu un autre cas, mais là aussi, c'était quelqu'un dont on a pitié, je crois, parce que voilà, il a été victime d'une injustice, il a traversé des choses terribles, et au fond, on se prend à le comprendre. C'est assez fascinant, mais là encore, c'est quelque chose qui est absolument dans la pièce.
Est-ce que par rapport à ça, justement, vis-à-vis de choix en fait de comédie musicale ou de théâtre en musique, enfin, vous nous préciserez peut-être la chose, est-ce que pour vous, la démarche de cinéaste comme ceux qui avaient réalisé ce tandem, qui avait à réaliser La jeune fille et la garçon autour de la séropositivité, donc dans une tradition de Jacques Demy, il y avait notamment La balade du séropo, ou alors plus récemment celui qui a obtenu l'Oscar en 2007 du meilleur court-métrage, qui est donc West Bank Story, ce film d'un cinéaste israélien qui a adapté donc West Side Story à Gaza, où effectivement on a le Hamas est devenu le Hummus. Enfin bon, j'entends, on va du côté aussi de grands humoristes. Est-ce que pour vous, c'était intéressant de revenir à un autre siècle, celui de la révolution industrielle, prédatrice, le Léviathan de Hobbes et tant d'autres, ou alors est-ce qu'il ne faudrait quand même pas empoigner peut-être d'autres sujets ou d'autres écritures plus contemporaines? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, ces considérations-là ne m'intéressent pas du tout. Ce qui m'intéresse, ce sont les œuvres dans leur côté universel, intemporel. D'ailleurs, l'histoire de Sweeney Todd se passe au 19e. Elle a été mise en musique par un compositeur du 20e qui est encore vivant, qui passe pour être un grand intellectuel, parfois qui compose une musique un peu difficile quand même pour Broadway, alors que chez nous, au contraire, il y a des gens qui ont parfois du mépris pour la comédie musicale, que ce soit de Sondheim ou d'autres. Quelque part, je laisse ce débat à d'autres. Moi, je trouve que c'est une œuvre absolument d'aujourd'hui, parce que la révolution industrielle, on en est encore les héritiers. Le capitalisme est né comme ça. Et voilà, je crois que ce que raconte Sweeney Todd, c'est aussi puissant et intemporel et universel qu'une tragédie shakespearienne, et aussi d'ailleurs aussi diversifié dans les genres, dans les tonalités, dans les personnages. Et donc voilà, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à choisir, à monter cette pièce. Et puis, en voyant les réactions du public ici à Genève, je me dis presque, tiens, on a l'impression que les gens découvrent un genre, une tradition qui en fait sont anciennes et qui est encore bien vivace, contrairement à certains courants du théâtre en Europe. La comédie musicale américaine produit chaque saison des dizaines de nouvelles œuvres, dont certaines sont des flops, dont certaines sont des grands succès, dont certaines resteront. Sweeney Todd a été créé en 1979. Il se trouve que voilà, on en donne des productions partout, dans des opéras, dans des petites salles, dans des productions amateurs, dans des universités. Et puis qu'un grand cinéaste comme Tim Burton en a fait finalement un film que j'ai eu la chance de voir et que je trouve formidable, un vrai chef-d'œuvre, un vrai grand film. Donc c'est bien la preuve qu'il y a là un matériau, je crois, qui est bien au-delà de toutes les petites querelles de clochers.
Alors oui, c'était simplement peut-être pour la contemporanéité de la chose sur laquelle vous avez répondu. Tim Burton disait dans une interview sur le travail sur le film qu'ils avaient notamment visionné The Return of Dr. X, que je ne connais pas, donc qui est le seul film d'horreur avec Bogart en fait, et donc qui voulait ramener quelque part quelque chose de Ed Wood aussi un petit peu là-dedans, c'est-à-dire pas nécessairement frankensteinien, mais en tout cas un côté, disons, d'une horreur qui pouvait avoir un aspect humain et sympathique. Est-ce que vous avez visionné un certain nombre de matériaux ou vous êtes intéressé à un certain nombre de sources?
Moi, je suis beaucoup intéressé au Grand Guignol pour préparer ce spectacle, parce que c'est ce qui m'intéressait aussi dans Sweeney Todd. Je me disais, au fond, le Grand Guignol, c'est un genre théâtral totalement tombé en désuétude, tout simplement parce qu'il était remplacé par le film d'horreur. D'ailleurs, l'histoire du Grand Guignol, elle peut vraiment se lire comme ça. Il est né à la Belle Époque, à Paris, donc au théâtre Grand Guignol, qui s'appelait comme ça, le théâtre du Grand Guignol, près de Pigalle. Et je veux dire, j'ai découvert un monde tout à fait fascinant, héritier du naturalisme, donc du théâtre Antoine, etc. Mais qui poussait très loin, justement, qui utilisait le réalisme pour provoquer des émotions fortes chez le public et qui les obtenait, puisqu'on mesurait le succès d'une pièce au nombre d'évanouissements qu'elle allait susciter dans cette petite salle où les gens allaient pour frissonner, et puis aussi, non seulement pour frissonner d'horreur, mais aussi pour frissonner, pour avoir des frissons d'érotisme, parce que c'est non seul, le théâtre Grand Guignol est non seulement l'ancêtre du cinéma d'épouvante, c'est aussi l'ancêtre du cinéma porno, figurez-vous, parce que c'est là qu'on voyait des femmes dévêtues par des sauvages qui allaient ensuite les dépecer, ce genre de choses. Le premier nu sur une scène, on l'a vu sur la scène du théâtre Grand Guignol, paraît-il. Et donc, voilà, c'est tout à fait fascinant de se plonger là-dedans, parce qu'il y a des éléments évidemment grand guignolesques dans Sweeney Todd. Après, au niveau cinématographique, évidemment que tout le cinéma expressionniste, je pense à Murnau notamment, on peut sortir des titres en rafale, les Nosferatu et autres, mais peu importe, c'est vrai que ça a aussi un petit peu, ça nous a donné à réfléchir pour choisir un peu les ambiances, les tonalités de couleurs, les effets d'éclairage aussi, les magnifiques lumières de Michel Guibantif. Donc tout ça, effectivement, ça nourrit la réflexion, mais sachant que c'est une œuvre extrêmement diverse, il y a aussi l'expressionnisme théâtral, il y a un peu de Wojtek dans ce personnage, mais aussi il y a un peu du Barbier de Séville, parce que on a dans cette histoire une jeune fille qui est enfermée par son tuteur qui voudrait bien l'épouser, donc qui est un vieux barbon et qu'un jeune homme va venir délivrer. Donc on en parlait tout à l'heure, une grande diversité de tons et de références dramaturgiques qui font que là encore, dans ce qui nous a nourris dans la réflexion, dans la préparation de ce spectacle, eh bien on ne pouvait pas juste rester focalisé sur un élément comme l'expressionnisme allemand, par exemple.
Juste une chose, Lorenzo Melaguerra, par rapport à cette histoire concernant ce barbier meurtrier, qui revient d'ailleurs aussi en France sous d'autres versions, visiblement il y a eu d'autres faits divers, est-ce qu'il s'agit vraiment de quelque chose d'attesté ou d'une légende urbaine? Vous en faites le récit d'ailleurs dans le programme qui accompagne, le flyer affichette qui accompagne la chose, avec les plusieurs étapes.
Lorenzo et moi-même, on est un peu empruntés, comme tous les commentateurs d'ailleurs, parce que le sujet est âprement discuté. Certains historiens disent que oui, il y avait un Sweeney Todd historique à la fin du XVIIIe siècle, un fait divers d'un barbier qui aurait assassiné par jalousie un de ses clients dans lequel il avait reconnu l'amant de sa femme. Enfin, c'est en discussion chez le barbier, le client commence à parler d'une conquête qu'il a faite et le barbier se rend compte que cette conquête n'est autre que sa femme. Donc du coup, hop, ni une ni deux, il se venge instantanément. Alors, c'est un récit qu'on trouve, je crois, dans un périodique anglais au début du 19e, mais après, certains historiens ont dit que c'était un périodique très fantaisiste, donc on ne pouvait pas trop lui accorder foi, mais toujours est-il qu'à partir de cette source, il y a eu quantité de récits dérivés avec un Sweeney Todd, barbier sanguinaire, et donc une flopée d'abord des feuilletons dans des journaux, et puis ensuite des adaptations en théâtre, en pièces de théâtre, donc qui ont donné lieu à des mélodrames sanglants qui avaient beaucoup de succès dans la Londres du milieu du 19e siècle.
Alors pour parler quand même de la musique, Sondheim, c'est un univers très contrasté. Certains critiques ont parlé à son sujet d'un théâtre musical des affects, c'est-à-dire que c'est une musique qui a un effet presque kinesthésique avant d'être dramaturgique sur le corps de la personne qui le reçoit, donc le spectateur notamment en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à cette musique qui est déjà, je dirais, extrêmement narrative en elle-même pour l'état intérieur des personnes et leur psychologie? Comment est-ce qu'on joue entre la musique et le texte, justement? Comment vous l'avez perçu?
Pour moi, c'est comme l'opéra, c'est-à-dire que la musique remplit des fonctions très diverses, mais celles que vous avez dites. La musique plante des décors, elle suggère des ambiances, elle évoque des sentiments, elle provoque des émotions, elle dépeint des caractères, effectivement. Elle joue un rôle presque de mise en scène, celle qui entraîne le flux des choses, le flux tragique de cette histoire, qui est quand même aussi une tragédie, il faut le dire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la musique presque emporte les personnages dans son cours. Ils ne peuvent pas lui échapper, comme les personnages tragiques ne peuvent pas échapper au fatum. Donc, elle remplit tous ces rôles-là, tour à tour et parfois en même temps. C'est une musique extrêmement riche. On peut y consacrer des thèses. Il y a des thèses qui ont été consacrées à Sondheim et notamment à Sweeney Todd, parce que c'est une musique extrêmement fine, très subtile, tissée de références et puis aussi de références internes, de thèmes qui se développent, qui sont parfois méconnaissables. Il y a un thème un peu grinçant qu'on entend résonner quand la vieille mendiante, une mendiante dans le spectacle qui tantôt demande l'aumône sur un air très plaintif, tantôt propose ses charmes, si on peut parler de charmes, à des clients potentiels. Donc elle fait un peu la pute, et à ce moment-là il y a une musique très grinçante qui apparaît. En fait, on s'aperçoit en cours de route, mais la plupart des spectateurs ne s'en aperçoivent pas, tellement c'est bien fait, donc ça travaille sur l'inconscient, que cette musique grinçante, elle est dérivée d'un petit thème de menuet tout à fait délicieux qui résonne un peu plus tard et qui est associé à des événements passés et à un personnage que je ne vais pas évoquer plus avant parce que ce serait dévoiler la fin de l'histoire. Mais bref, c'est pour vous dire que voilà, il y a plein de renvois, des thèmes, comme dans les grands opéras, comme les opéras de Wagner, les opéras de Strauss ou autres.
Pour le traitement, une dernière chose, Lorenzo Malaguerre aussi, Alain Perrou, pour le traitement justement de Sweeney Todd, ça rappelle alors un autre rôle de Johnny Depp, pas celui qu'il a tenu, à mon sens, dans l'adaptation de Tim Burton, mais celui qu'il a dans Dead Man Walking, c'est-à-dire vraiment un personnage quasiment en sursis, qui est une sorte de revenant, en fait, et qui va dialoguer avec son objet de crime. C'est des choses aussi, Lorenzo Malaguerre, je pense, qui vous ramène à, d'une part, à votre parcours théâtral, mais aussi à des choses très profondes par rapport à l'incarnation au théâtre. Parce qu'on a l'impression vraiment que c'est un personnage qui est déjà comme décédé au départ, quoi, d'une certaine manière. Vous l'avez d'ailleurs grimé de manière assez fantomale, terminale.
Ouais, je crois en fait que le personnage, en fait, dès qu'on le voit apparaître, au fond, sa vie est déjà brisée dès le moment où il apparaît. C'est-à-dire qu'il a, il a perdu sa femme. On apprend qu'il a perdu sa femme, ou on ne sait pas très bien. Enfin, qu'il a perdu sa fille, qu'il a été exilé pendant 20 ans ou plus. À l'autre bout du monde, dans un bagne, donc sa vie est brisée de toute façon. Donc, il revient là dans une vie brisée pour se venger. On ne sait pas très bien de qui, de quoi, mais enfin voilà. Donc c'est effectivement un personnage qui, comme vous le dites, est quelque part est déjà mort à l'intérieur quand l'histoire commence. C'est magnifique, quoi. C'est effectivement déjà le personnage tragique dans toute sa splendeur, quoi. Universel dans une c'est lire, c'est enfin c'est voilà, c'est plein, c'est crayon, c'est voilà, c'est tous ces personnages là qui au fond sont déjà à leur fin quand l'histoire commence.
Une dernière chose, Alain Perrou, à en croire un article qui est paru, je crois, dans le Temps, vous avez fait une sorte de réduction dans le livret, c'est-à-dire que tout n'a pas été traduit, ou vous avez fait un travail de resserrement. Alors je voulais juste en savoir peut-être un peu plus, ou ça n'est pas le cas du tout, c'est une traduction parfaitement intégrale, ou j'ai mal compris le propos.
Non, il y a eu un resserrement dans le nombre d'instruments. Voilà, mais non, pour ce qui est du livret, il y a des petites coupures, mais il y a aussi des ajouts. C'est-à-dire que, comme d'ailleurs dans certains opéras baroques, ou pas baroques d'ailleurs, Sondheim lui-même a retouché un peu des choses lors de la première londonienne de Sweeney Todd, donc 2 ans après la première à Broadway. Et par exemple, il avait rajouté une scène avec ce personnage de mendiante, que je trouve une scène vraiment très touchante, et que des adaptations plus récentes, enfin des productions plus récentes n'ont pas reprises. Moi, j'avais envie de l'intégrer parce que je la trouve intéressante. Puis à l'inverse, il y a 2-3 passages qui me semblent un peu longs, qui ont été un petit peu resserrés, choses qui se font aussi dans certaines productions à Broadway ou ailleurs de Sweeney Todd. Donc on a fait des... Non, on ne peut pas dire que l'œuvre soit plus courte en réalité. Après, effectivement, l'orchestre, il faut dire que la version originale de Sweeney Todd est prévue pour 10 chanteurs solistes, une vingtaine de choristes et puis un orchestre de 30 à 40 musiciens. Nous, on a fait une version de chambre, donc avec 8 chanteurs et 6 instruments. Cette version à 6 instruments, en fait, c'est une réduction d'une version à 9 instruments qui avait été faite par l'orchestrateur de Sondheim pour Londres, là encore. Nous, on est passé à 6 assez facilement. C'est Vincent Thévenat qui est au piano et qui dans l'orchestre et qui, en plus, a une expérience d'orchestrateur qui s'est chargé de cela. Et puis, ils ont tous travaillé avec Stéphane MacLeod, qui fait partie, lui, de la distribution des chanteurs. Il chante le rôle du juge, l'affreux méchant. Mais il a eu un rôle très important, Stéphane, puisqu'il a aussi assuré la coordination musicale de l'ensemble. Il a fait travailler les chanteurs, les instrumentistes, qui, je dois dire, tous, instrumentistes comme chanteurs, réalisent une performance incroyable, puisqu'ils jouent cette musique extrêmement difficile. Ils la jouent, ils la chantent, sans chef d'orchestre, et c'est très, très compliqué. Ça a l'air de rien, c'est monstrueux, parce que les rythmes sont très compliqués. Les rythmes sont inégaux, souvent. Il y a plein de départs qui dépendent un peu de l'avancement de l'action et de dialogues qui sont dits sur la musique. C'est très, très, très minutieux, et je dois dire que sans Stéphane et sans la qualité de tous ces chanteurs qui se donnent et qui sont absolument incroyables, on n'arriverait pas à retrouver cette fluidité qui est tellement importante dans la comédie musicale américaine.
Une dernière chose, la fortune européenne de Sondheim ne semble pas toujours assurée. C'est vrai qu'il y a des grands classiques comme West Side Story qui sont pris, des cinéastes comme Alain Resnais qui l'ont très vite repéré comme un maître. Je crois qu'Alain Resnais n'aurait pas fait On connaît la chanson s'il n'y avait pas eu un certain nombre de comédies musicales de Sondheim. Il n'en reste pas moins qu'en Europe, il semblerait être totalement méconnu. Vous aviez, je crois, la première, un public anglophone. C'est un immense classique, 565, je crois, représentations à Broadway depuis la création en 79, voire encore beaucoup d'autres. Comment expliquer justement ce relatif manque d'intérêt?
Juste une précision, c'est vrai que les 560 représentations, c'est de la production d'origine. Donc à la suite, après il y a eu d'autres productions, et notamment une très récemment en 2005 qui a eu beaucoup de succès, qui a de nouveau raflé des prix. Et voilà. Alors, il faut nuancer un peu dans le sens où il y a certains pays européens qui d'ailleurs sont très ouverts à la comédie musicale, comme l'Allemagne et l'Autriche, où Sondheim est connu. Il y a des versions allemandes très réussies de Sweeney Todd ou de Little Night Music qui sont données dans des opéras ou dans des théâtres spécialisés dans la comédie musicale. Il y en a beaucoup à Hambourg, à Vienne. Les Allemands adorent la comédie musicale. J'ai entendu parler de productions de Sweeney Todd en portugais à Lisbonne tout récemment. Bientôt une production italienne à Bologne. Alors les Anglais sont très fans de Sondheim, qui le leur rendait bien puisqu'il est, très anglophile. Il dit d'ailleurs que Sweeney Todd, c'est aussi une œuvre sur l'Angleterre et sur Londres. Bref, c'est surtout la France et les pays francophones plus généralement qui ont eu des réticences très fortes vis-à-vis de la comédie musicale américaine en général, qu'ils ne connaissent que très mal et par le film. Il y a beaucoup de gens qui pensent d'ailleurs que la comédie musicale est un genre cinématographique avant tout, ce qui est faux. La comédie musicale est d'abord un genre théâtral et le film l'a vampirisé, si l'on peut dire. Mais bon, il a aussi permis de la faire connaître, c'est vrai. Mais la comédie musicale est un genre, je le disais tout à l'heure, extrêmement vivace et très important en Amérique. Et voilà. Alors, les pays francophones ont beaucoup résisté. On cite toujours l'exemple de Cats, la fameuse comédie musicale de Andrew Lloyd Webber qui a tenu, je crois, 15 ans à Londres et à New York et partout dans le monde anglophone, et puis aussi dans les pays germanophones, et qui n'a tenu que 3 mois à Paris, en version française, dans la production de Broadway en plus. Donc, bon. Et ça, il semble que ce soit en train de changer, puisque récemment, on a vu triompher ces comédies musicales à la française qui ne sont pas très...
Style Le Roi Lion.
Non, alors vraiment, c'est encore autre chose. Moi, je parlais là de Notre-Dame de Paris ou Le Roi Soleil, qui sont des choses, franchement, qui se ressemblent plus à ce qu'on appelait des opéras rock pour des stades, et que, par exemple, tous les aficionados, notamment francophones, il y en a quelques-uns, de la comédie musicale américaine détestent, parce qu'ils disent, c'est pas de la comédie musicale, c'est les chorégraphies sont rudimentaires, il n'y a pas de travail théâtral, c'est fait pour des stades, on voit rien, c'est moche, c'est, etc. Bon, la musique et les paroles sont pas toujours de très bonne qualité. Mais ce genre de shows qui ont eu pas mal de succès dans les années 90 sont maintenant, continuent d'exister, mais il y a, je crois, juste maintenant, on est dans une période de transition puisqu'on voit que des productions à l'anglo-saxonne, comme Cabaret, qui est représenté aux Folies Bergères depuis une année et demie, donc c'est, et Cabaret qui est une œuvre des années 70, là dans une production de Sam Mendes qui est très récente mais qui vient de Broadway, en adaptation française, ça cartonne. Le Roi Lion qui vient de Broadway, qui est une production magnifique, et bien là aussi c'est un grand succès à Mogador. Et puis on voit aussi maintenant des écoles de comédie musicale en France qui commencent à émerger, et bien tout cela laisse à penser que la France est en train de se laisser séduire. Il était temps, et bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, et il y a de quoi être optimiste.
Mais, dernière chose, est-ce qu'il n'y a pas un manque de formation, justement du fait que la comédie musicale n'est pas assez diffusée, notamment en Suisse romande, pour avoir des acteurs qui sont à la mesure de cet art total, c'est-à-dire qui impliquent le chant, la comédie, la présence corporelle et la danse, parce qu'il y a beaucoup de danse, notamment dans l'adaptation de Tim Burton aussi. Donc, je ne sais pas, par rapport à ça, Lorenzo Malaguerra, est-ce que la comédie musicale ne serait pas vraiment le viatique pour arriver à avoir un acteur dont Brecht rêvait, c'est-à-dire à la fois à l'air scientifique puis à l'air du divertissement.
Brecht rêvait et dont tout le monde peut rêver, hein. Parce qu'un acteur qui sait chanter, jouer, danser, c'est en général plutôt un bon acteur. Ça veut dire qu'au fond, il maîtrise sa technique corporelle parfaitement. Et ça, c'est toujours ce qu'on souhaite pour un acteur. Non, c'est sûr que si la comédie musicale pouvait avoir un tout petit peu plus de ses lettres de noblesse en Suisse romande ou en France, ce serait génial. Ce serait un atout pour le métier d'acteur en général. Alors, c'est vrai que sur cette production, on a plutôt des chanteurs lyriques. Donc ça veut dire que on doit énormément les diriger pour ce qui est de... Heureusement, il n'y a pas de danse dans ce méthode, donc c'est déjà une bonne chose. Mais disons, dans le jeu, on doit être vraiment, vraiment, vraiment sur eux. Et c'est sûr qu'ils n'ont pas une formation d'acteur, donc ça se sent quand même. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Alors, mais ce serait effectivement, je pense, une très bonne voie de formation pour les acteurs de passer par la comédie musicale et qu'il y ait carrément des cours centrés autour d'œuvres comme ça qui sont absolument centrales pour des jeunes comédiens, notamment.
Et puis, je pense que ce serait aussi un enrichissement énorme pour les chanteurs d'opéra qui, justement, manquent d'une formation d'acteur. Et en plus, à part ça, de savoir danser, c'est absolument nécessaire. Et au fond, on parlait de cette technique corporelle qui est vraiment l'idéal auquel tendent les comédiens. Mais évidemment que c'est la même chose chez les chanteurs d'opéra. Et Dieu sait si parfois, on a l'impression que le corps est un peu à la traîne. Donc, je crois que tant pour les comédiens que pour les chanteurs d'opéra, la comédie musicale peut vraiment être un atout énorme. Et justement, un genre qui, d'une part, n'est pas mineur, mais qui en plus demande des qualités absolument rarissimes et énormes. Et enfin voilà, je crois que si les anglo-saxons ont un tel niveau de comédiens et d'acteurs, c'est peut-être aussi grâce à la comédie musicale.
Alain Perrou, Lorenzo Malaguerra, merci beaucoup.
Genèveactive.ch